7022. 7, 0, 2 et 2. C'est le nouveau record absolu du S&P 500. Et pendant ce temps-là, côté Nasdaq, on est à 24 016. Les deux grands indices américains sont au plus haut de tous les temps, simultanément. Maintenant, vous allez me dire, « Ah, super, alors la guerre est terminée, le pétrole est revenu à 60 $, l'inflation s'est effondrée, Jérôme Powell chante sous la douche et Trump a arrêté de tweeter. » Non, pas vraiment ça du tout. La guerre n'est pas finie, le pétrole est toujours à 91 $, l'inflation ne s'est pas effondrée, Jérôme Powell fait toujours des cauchemars en entendant le souffle de Trump dans son dos, et bien sûr, évidemment, Trump n'a pas arrêté de tweeter, bien au contraire, ni de poster sur Truth Social. Mais les marchés, eux, ils ont décidé que tout ça, c'était juste des détails, et aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi ce marché est peut-être le plus délirant, le plus incohérent et même, en même temps, le plus indestructible de ces 25 dernières années. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 16 avril 2026 et on est au plus haut de tous les temps. Eh ouais.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Mais commençons par les faits, parce que les faits, eux, il faut quand même le dire, ils sont spectaculaires, peu importe ce qu'on veut bien en penser. Le S&P 500 a clôturé à 7022, record historique. Le Nasdaq enchaîne sa 11e séance de hausse consécutive, 11 jours de suite dans le vert, une chose qu'on n'avait plus vue depuis 2021. Ce matin, Tokyo prend le relais, le Nikkei prend 2,5% et touche aussi ses niveaux records. La Corée, pareil, record, New York record, Tokyo record, Séoul record. L'Europe, ce sera sûrement la semaine prochaine, si tout va bien, enfin si la guerre se termine. Et là, alors dans votre tête, il y a une petite voix qui vous demande peut-être, mais qu'est-ce qui a vraiment changé finalement? Alors on va faire tranquillement le tour de ce qui a changé, ou pas. La paix a été signée entre l'Iran et les États-Unis? Non. Les Israéliens et le Liban sont devenus les meilleurs amis du monde? Non plus. L'économie américaine a montré des signes de croissance, de reprise spectaculaire alors? Non, pas du tout. L'Europe s'est réveillée? Ça, je ne vais même pas répondre à la question. Alors, probablement que c'est parce que le pétrole a baissé. Alors, techniquement, oui, il est descendu par rapport aux 115 $ du 7 avril, mais par contre, il est encore en hausse de 43% depuis la fin du mois de février. Ce qui s'appelle dans le monde réel, pas vraiment baissé, en relatif en tous les cas. L'inflation a reculé alors? Non, au contraire, elle n'a pas reculé. Elle n'a jamais été aussi forte depuis des mois. La Fed n'envisage même pas d'envisager, peut-être éventuellement, peut-être encore une fois, de baisser les taux. Kevin Warsh, l'homme providentiel que Trump veut coller dans le fauteuil de Powell, est déjà en train de faire des calculs mentaux pour savoir comment est-ce qu'il va faire pour satisfaire son bon président tout en conservant une apparence de crédibilité quand il sera président de la Fed. Bonne chance, Kevin. Alors, si c'est pour aucune de ces raisons, pourquoi est-ce que les marchés montent? La réponse qu'on lit absolument partout, dans tous les médias financiers, c'est « Wall Street est optimiste quant à un apaisement des tensions au Moyen-Orient ». Sur la base de quoi? Sur la base des tweets de Donald Trump, bien évidemment. Voilà, c'est ça en gros. C'est pour ça qu'on est à des records historiques sur les marchés et parce que Donald Trump a dit que c'était bientôt fini. Hier, Donald Trump a accordé une interview à Fox Business, sa chaîne préférée. Vous savez, c'est la chaîne qui lui pose des questions pièges du genre « Monsieur le Président, est-ce que vous êtes le meilleur président de tous les temps ou juste le meilleur président depuis 200 ans ?» Et dans cette interview, il a déclaré que le conflit était très proche d'être terminé. Ce qui, en langage trumpien, peut vouloir dire à peu près n'importe quoi. Oui, parce que pour être complètement concret, j'ai compté. J'ai vraiment compté. Donald Trump a annoncé la fin imminente du conflit avec l'Iran 13 fois depuis le début. 13 fois. Nous avons gagné la guerre en mars, ça va bientôt finir le 10 mars, il n'y a plus rien à cibler le 11 mars, 2 ou 3 semaines le 31 mars, bientôt, très bientôt, le 1er avril. Et ça continue encore et encore, comme une chanson dont on aurait perdu le refrain, mais pas l'enthousiasme. Hier, c'était donc la 13e déclaration, avec en bonus surprise une invitation mystérieuse à se préparer. Roulement de tambour à 2 jours incroyables. 2 jours incroyables! Trump nous fait encore le coup du « moi je sais, mais vous, vous savez pas ».
Donc ce type raconte ce qu'il veut, des médecins mettent en doute son état mental sur les chaînes YouTube, et nous, dans le monde merveilleux de la finance mondiale, on continue à battre des records sur ses élucubrations personnelles. Bah, pendant ce temps, l'Iran menace de couler tous les bateaux américains qui traînent un peu trop près de chez eux. Bon alors attendez, concrètement, la probabilité de réussir à couler le porte-avions Abraham Lincoln avec un Zodiac et un pistolet à bouchon reste quand même relativement limitée, vu les moyens qu'il leur reste, mais c'est l'intention qui compte. Mais les marchés, eux, ils n'écoutent pas les Iraniens et ils écoutent Donald Trump. Ou du moins, ils font semblant de croire ce que Donald Trump est en train de dire. En tout cas, en termes d'impact sur les cours, ça revient exactement au même. Le VIX, par exemple, l'indice de la peur, celui qui monte quand les investisseurs sont en panique, il est retombé à 18, son plus bas niveau depuis le 26 février, deux jours avant le début de la guerre. Ce qui signifie que, selon les marchés, on est revenu à la case départ, comme si rien ne s'était passé, et comme si on avait appuyé sur Reset, comme si quelqu'un avait effacé tout simplement deux mois d'histoire avec une grande gomme. Bon, au milieu de tout ça, il faut quand même bien voir une chose, c'est que tout n'est pas que vent et tweet présidentiel, parce qu'il y a quand même une raison qu'on va dire concrète, qui est mesurable, qui est quantifiable, et ça fait du bien, et qui soutient leur rallye pour l'instant, c'est la saison des résultats. Bank of America a publié un bénéfice par action hier en hausse de 25% au premier trimestre. Ils ont dépassé le consensus de 10%. Morgan Stanley, croissance des bénéfices 29%, mieux de 13%. Les deux titres ont progressé en conséquence. Et sur les 65 entreprises qui ont déjà publié depuis le début de la saison, 45 ont fait mieux que les attentes. Bon, je vais quand même mettre un petit bémol au milieu de tout ça, parce que tout le monde connaît, mais on ne le dit pas vraiment. Les analystes, ils fixent généralement la barre suffisamment bas pour que tout le monde ait l'air d'un champion olympique quand les chiffres arrivent sur le marché. Mais ces chiffres donnent quand même au marché une raison fondamentale de monter qui ne dépend pas, pour une fois, des humeurs de Donald Trump. Et ça, c'est précieux en ce moment, c'est très précieux. Vraiment, profitez-en, parce que les moments où quelque chose est quantifiable, en ce moment, à l'heure actuelle, sont extrêmement rares. Et puis alors, du côté des valeurs individuelles, Tesla a explosé de 7,6%. Parce qu'ils ont vendu des voitures? Non. Après qu'Elon Musk a énoncé que la puce AI5 avait terminé son étape finale avant la production industrielle. Ce qui ne veut pas dire que la puce est fabriquée, ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne bien, et ça ne veut pas dire qu'elle sera disponible bientôt. Mais le marché, il a estimé que cette annonce sur X valait 7,6% de hausse. Et qui sommes-nous pour contredire le marché? Le marché a toujours raison. Et puis alors hier matin, ASML, monopole absolu sur la technologie de lithographie la plus critique de la planète. Résultat en hausse, marge solide, prévision relevée à la hausse, carnet de commandes plein à craquer parce que tout le monde veut des puces pour faire tourner une intelligence artificielle qui n'est pas encore rentable, mais ça on verra plus tard. Le PDG de la boîte dit que la demande surpasse l'offre, ce qui économiquement on appelle ça une excellente nouvelle, et le titre perdait 4% hier. Ouais, parce que c'était dans les prix. Oui, parce qu'on savait. Oui, bien entendu, on savait, comme toujours. Et puis alors, autre sujet passionnant, à quelques mois de l'IPO de SpaceX, on s'est soudainement souvenu d'un petit détail. Google avait mis 1 milliard de dollars dans SpaceX en 2015, un peu comme on prend un ticket à gratter au PMU du coin. Ben, ce billet, aujourd'hui, il vaut 122 milliards de dollars, soit plus que Dell, Adobe, CrowdStrike et Northrop Grumman, tous ensemble. C'est pas tout, hein. Google détient également 14% d'Anthropic. Vous savez, l'entreprise qui est derrière Claude, le concurrent de ChatGPT, aujourd'hui c'est valorisé 800 milliards. Morale de l'histoire, Google est peut-être le meilleur fonds de capital risque technologique de la décennie. Et quand on comprend ça, quand on entend ça, quand on voit ça, eh ben on comprend mieux pourquoi le titre a repris 23% depuis le mois de mars. Ouais, des fois la finance c'est simple, des fois c'est compliqué, mais là c'est simple. Et puis alors maintenant, je vais vous raconter quand même l'histoire du jour. Celle qui est drôle, celle qui est mythique et celle qui, personnellement, me fait comme un tout petit peu froid dans le dos. Il y a une entreprise qui s'appelle Allbirds, fabricant de chaussures en laine, entrée en bourse en 2021 à une capitalisation de plus de 2 milliards de dollars. Et puis, tout a foiré. Le titre est passé de 600 dollars à 2,50. C'était le cas mardi matin. Le scénario classique de la start-up survalorisée qui rencontre la réalité. On parlait même de faillite. Et puis alors, hier, ils ont changé de nom. Newbird AI. Ensuite, ils ont levé 50 millions en dettes convertibles et ils ont annoncé qu'ils allaient faire de l'IA. Résultat, 582% de hausse en une journée. 582% en 24 heures pour une boîte qui fabriquait des chaussures en laine la semaine dernière encore. Alors, j'ai vécu le long Blockchain Corp en 2017, une fabrique de thé glacé qui avait ajouté blockchain à la fin de son nom. J'ai vécu le Kodak Coin en 2018, les SPAC en 2021 et les dot-com en 1999 et bien d'autres, j'en passe et des meilleurs. Mais à chaque fois, c'est le même film, les mêmes acteurs, le même dénouement et à chaque fois, C'est des salles pleines de gens sincèrement étonnés du résultat final. 50 millions de dollars dans un secteur où, corps ou vive, on dépense environ 30 milliards. C'est comme débarquer en Normandie le 6 juin 44 avec un lance-pierre et un exemplaire du Fort Vert avec Hans und Liselotte Chaudy. Les plus vieux parmi vous comprendront. L'histoire est donc belle, la performance de 582% en intraday est tout simplement mythique. Mais moi, j'ai laissé mon optimisme dans le même tiroir que mes actions Long Island Iced Tea et mes actions Illinois Supraconductor. Allez, un dernier petit sujet avant qu'on rentre à la maison. Powell. Eh oui, encore lui. Trump veut virer Jerome Powell. Encore. Les deux hommes se détestent cordialement depuis des années. Trump voulait des taux bas pour alimenter sa croissance. Powell a fait ce que les banquiers centraux sont censés faire, son travail, sans faire n'importe quoi. Et hier, Trump a déclaré qu'il devrait renvoyer Powell si ce dernier ne quittait pas ses fonctions à l'expiration de son mandat le 15 mai. Son successeur désigné, Kevin Warsh, n'est pas encore confirmé par le Sénat. La confirmation devrait tomber le 21 avril, la semaine prochaine. Mais il y a un sénateur qui a déjà annoncé qu'il bloquerait le vote tant que le procès contre Powell n'était pas bouclé. Résultat, on est dans le flou total. On a un peu un espèce de tableau qui représenterait une Fed sans patron confirmé, un ex-futur président intérimaire qui n'a pas forcément envie d'être là parce qu'il aimerait bien partir à la pêche, une guerre en Iran qui fait flamber l'énergie, une inflation qui repart à la hausse. C'est exactement le genre de cocktail dont les marchés obligataires raffolent en général. Ou pas. Non, non, je vous jure, ne vous inquiétez pas. Tout va hyper bien. La guerre est bientôt finie. Alors on résume rapidement. Le marché a intégré la fin d'une guerre qui n'est pas encore finie. Les négociations butent sur deux points fondamentaux, des simples, hein, le détroit d'Hormuz et le nucléaire iranien. C'est assez facile à régler. Trump tweet que Xi Jinping va lui faire une accolade chaleureuse parce qu'il adore tout ce qu'il fait. Trois navires seulement ont franchi le détroit d'Hormuz hier et les marchés sont au plus haut de tous les temps. La saison des résultats OK apporte un soutien solide et concret. Quand les grandes banques dépassent les attentes de 10 à 13%, ça donne au marché une vraie réflexion fondamentale. Ça, c'est rassurant. Mais la trêve expire la semaine prochaine et le moindre couac diplomatique peut faire basculer toute l'histoire de l'autre côté très rapidement. Pour le reste, aujourd'hui, il y aura les résultats de Netflix, Pepsi et TSMC. Il y aura aussi le CPI européen et le Philly Fed aux États-Unis. Autant d'occasions de continuer à ne rien comprendre, mais avec des données économiques en plus. En attendant, les futurs sont légèrement en hausse ce matin, le momentum reste visiblement porteur, et si vous voulez une conclusion philosophique pour terminer cette chronique, ce marché est peut-être irrationnel. Il est peut-être en avance d'un coup comme les joueurs d'échecs qui voient 10 coups à l'avance, ou peut-être qu'il joue simplement à pile ou face avec l'argent de tout le monde sur la base de tweets d'un homme qui pense être un croisement génétique entre Dieu et Jésus. Dans les deux cas, il est au plus haut de tous les temps. Et comme disait l'autre, les miracles arrivent en un instant, soyez prêts à les accueillir. Bah, je crois qu'on les a bien accueillis, les miracles, pour l'instant. Mis à part ça, je ne serai pas là demain, mais je serai là samedi pour le Swiss Bliss avec une bonne récap sur une belle semaine explosive avec plein de trucs à dire. Soyez forts, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la et dites-moi dans les commentaires, justement, on fait quoi pour les 100 000 followers ? Non, parce que là, hier soir, on a passé les 95 200. On a eu 350 nouveaux abonnés hier. Mais par contre, je vous le dis déjà, je ne me raserai pas la tête cette fois. Allez, à samedi. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.